10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et vous le savez, sur Beurre FM, tous les samedis pendant une heure, nous parlons d'islam. C'est l'islam au présent, avec le plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Voilà. Vous en avez mis partout sur votre...
Non, c'est juste un peu d'eau.
C'est sur votre bavette. Bon, comment ça va imam aujourd'hui?
Ça va et toi?
J'ai envie de vous embêter.
Bah vas-y, embête-moi.
Pendant la pub, je vous embêterai pendant la pub.
D'accord, pas de souci.
On va parler d'un sujet très important avec des questions qui reviennent très souvent, imam Abdelali. C'est la question de la nourriture en islam. Alors vous allez nous rappeler ce matin de ce qu'il est permis de consommer en islam. Est-ce qu'on peut consommer toute nourriture, n'importe quelle nourriture?
Alors la règle juridique concernant toutes les choses de ce bas monde, c'est la règle suivante, c'est al-aslu fil ashiya al-ibaha. Tout est autorisé jusqu'à qu'on prouve le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de prouver que quelque chose est licite quand quelqu'un vient me dire non, c'est pas autorisé. C'est à celui qui l'interdit de ramener la preuve. Donc c'est très important quand il y a une discussion entre deux personnes et que quelqu'un dit non, ça c'est halal, l'autre il dit ça c'est haram. C'est celui qui dit que c'est haram qui doit ramener la preuve que c'est haram, c'est pas à l'autre. Pas à celui qui dit que c'est halal.
Déjà,
donc, toute nourriture est halal jusqu'à qu'on prouve le contraire. Ouais. C'est ça ce que ça
mais
veut dire.
Est-ce que ça veut dire que sur le ce qui est permis ou pas, tout est permis si ça n'est pas interdit précisément?
Tout à fait, tout à fait. S'il n'y a pas de texte, de référence scripturaire émanant du Coran explicitement ou de la sunna du prophète authentique, une sunna authentique, parce que parfois il y a des sunnas qui ne sont pas authentiques malheureusement, mais si à partir du moment où l'argument est authentique, eh bien on ne peut pas émettre une fatwa. Alors je répète, le mot fatwa, ça ne veut pas dire condamner à mort, ça veut dire donner un avis religieux. C'est important de se réapproprier notre vocabulaire islamique, puisque le mot fatwa qui a été galvaudé et dévoyé par les chiites pour lui donner un sens totalement immoral et totalement incompatible avec l'islam, qui est le fait de donner l'autorisation à la population de lyncher une personne en particulier si elle le trouve. Ça, en islam, ça n'existe pas. On n'a pas le droit de lyncher ou de tuer quelqu'un de manière sauvage sans qu'il ait droit à un procès, à un jugement, etc. Bon, je reviens sur la question sujet.
Une fatwa, c'est donc un avis religieux.
Voilà. Donc c'est à celui, donc comme je disais, qui vient interdire la chose, de ramener la preuve dans le Coran ou dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset du Coran qui vient justement expliciter ce qu'on appelle l'idée du cas contraire. Je rappelle que le cas contraire, ce qu'on appelle en arabe mafhoum al-mukhalafa, c'est une règle linguistique dans le droit musulman, dans la principologie, ce qu'on appelle qawaid al-usuliyya, qui est essentielle à la compréhension des textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète vient interdire quelque chose, eh bien ça veut dire au cas contraire que le contraire est autorisé. Voilà ce que ça veut dire. On a le droit, par exemple, donne un exemple. Le prophète dit la yasri ahadukum zara akhi. Il n'est pas permis à l'un d'entre vous d'arroser la semence de son frère. C'est-à-dire que si une femme est enceinte d'un homme, elle ne peut pas se marier avec un autre homme, avec un autre homme qui n'est pas lui le père de l'enfant qu'elle porte dans son sein, à l'intérieur de son corps, puisqu'il n'est pas autorisé d'arroser la semence de son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le cas contraire, c'est que j'ai le droit d'arroser ma semence.
Je m'attendais pas à cet exemple-là.
Voilà. Si c'est un exemple intéressant.
Matin, oui,
c'est intéressant parce qu'il est utilisé par les fuqaha pour autoriser un homme qui a pratiqué la zina, la fornication avec une femme. S'il l'a mis enceinte, eh bien, il est autorisé de se marier avec elle. Il est même encouragé à ce couple-là de se marier rapidement, de ne pas attendre qu'elle accouche sous prétexte qu'il y aurait des fatwas qui disent non, on peut pas parce qu'elle est enceinte. Oui, mais c'est lui le père. Alors que si c'était un autre homme, que le père de l'enfant qu'elle porte, qui vient la demander en mariage avec qui, à ce moment-là, elle serait obligée d'attendre la naissance, la période de menstrue, de l'oshi qui suit les... Et ensuite, il pourrait venir la demander en mariage pour devenir son mari s'il le souhaite. Mais là, si tu veux, l'argument, ça a été justement cette règle linguistique qui consiste à dire, eh bien, si Dieu dit quelque chose, eh bien, son cas contraire, c'est l'inverse. Donc le verset du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qul la ajidu fi ma uhiya ilayya. Dis-leur, ya Muhammad, que je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé, de ce qui m'a été à moi révélé, muharraman, interdit, ala ta'imin yat'amuhu, pour quelqu'un qui cherche à se nourrir, illa, sauf, il dit sauf, an yakuna, si ce n'est maytatan, une viande morte, c'est-à-dire un animal qui a été retrouvé mort sans qu'il ait été égorgé, qui a été assommé, qui a fait l'objet d'un abattage autre que par égorgement. Aoudaman masfouhan, ou bien du sang qui a coulé du corps de l'animal, puisque tout le sang qui coule de l'animal, hein, qui va sortir du corps de l'animal, est lui interdit lui aussi. Alors que le sang qui reste dans la chair, le résidu de sang qui reste après l'égorgement, eh bien celui-là est licite. Aoulahma khinzir, ou la viande de porc. Là, elle est clairement prononcée dans le verset coranique, verset 145 de la sourate Al-An'am, où donc Dieu parle d'interdiction des nourritures. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, car cette nourriture-là qu'on vient de citer est une impureté. أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, ou bien une pratique qui consiste à égorger un animal en citant autre chose qu'Allah. C'est-à-dire, tu égorges un animal en disant au nom de Jésus, au nom d'une créature ou d'autre chose qui n'est pas Dieu. Les raïri lahibé. Famen et torra raïra barin wala adin fa inna rabbaka ghafur rahim. Celui qui fait l'objet de contraintes sans lui-même transgresser, sans vouloir avoir la volonté de transgresser, eh bien Dieu sera son créateur, ton créateur sera à son égard miséricordieux et pardonneur. Donc là, le verset est clair, c'est la règle générale, c'est tout est licite sauf ce qui vient d'être cité dans le verset suivant, verset 145.
Il n'y a pas d'autres interdictions.
Bah alors s'il y a justement certaines choses qui ont été évoquées aussi dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple... dans les détails, les animaux qui ont été, par exemple, qui ont, comme l'âne a été proscrit lors de la bataille de Khaybar. Le prophète a proscrit la consommation de la chair d'âne, qu'on parle l'animal l'âne. Même si cet avis-là a encore fait l'objet aussi de divergences entre les savants. Mais en gros, on pourra revenir là-dessus.
Il y a beaucoup de gens qui mangeaient de l'âne.
Il y avait eu des opportunités où il y avait des élevages d'ânes qui avaient été faits,
ouais,
notamment à Khaybar par exemple, où ils avaient récupéré ces animaux, et comme il y avait une grande armée à nourrir, il y avait beaucoup de gens et de soldats à nourrir, eh bien ils ont égorgé ces ânes, ils ont commencé à les faire cuire, et le prophète a dit renversez-moi ces cuves, c'est-à-dire ces casseroles, mm-hmm, où vous faites cuire la viande d'âne, cette viande n'est pas halal. Je répète que cette interdiction fait l'objet de controverses et d'interprétations diverses. Par exemple, le verset coranique qui parle aussi de différentes catégories de viandes qui ne sont pas licites. Il dit par exemple, il vous a été proscrit la viande morte, le sang, la viande de porc, ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah, l'animal qui a été étranglé, celle qui s'est jetée. Celle qui a été assommée par un autre animal, c'est-à-dire qui a été encornée par un autre animal, celle qui est tombée d'une falaise, celle qui a été consommée, attaquée, qui a été tuée par un animal, c'est un animal féroce, c'est-à-dire un lion ou un tigre qui a laissé de la viande, qui n'a pas consommé toute la viande, et toi tu viens, tu prends de la carcasse de la viande, cette viande-là n'est pas halal. Illa ma dhakkaytum, sauf si l'animal est encore vivant au moment où est-ce que cet animal féroce est en train de le manger. L'animal est encore vivant et toi tu l'égorges. Et si donc son cœur battait encore et que toi tu as réussi à vider son corps de son sang par un égorgement avant qu'il meure, eh bien cette viande devient halal. Voilà pour ce qui est de la règle générale concernant ce qui est illicite. À part ça, tout est halal. Personne n'a le droit de dire non, ça c'est haram ou ça c'est halal, etc. Il y a un animal aussi qui fait partie des animaux qu'on ne sait pas s'ils font, ce sont des animaux de la mer ou de la terre. Ils sont entre les deux, entre l'eau et la mer. C'est la grenouille. La grenouille, là, elle fait l'objet d'une interdiction spécifique. Non seulement il n'a pas.
Ah, c'est pas possible.
Ah,
oui.
c'est non seulement c'est interdit de la manger, mais c'est même interdit de la tuer. On n'a même pas le droit de tuer la grenouille.
Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est sur les escargots.
Les escargots, il n'y a pas de problème. Moi, j'en mange, il n'y a pas de difficulté à manger
des escargots. C'est pas parce que vous en mangez que c'est permis.
Ouais, non, mais il n'y a rien qui est interdit.
Permettez, Imam Abdelali.
Je répète que tant qu'on n'a pas de dalil, quand on n'a pas de preuve qui vient interdire quelque chose, ça n'est pas interdit. Je répète que concernant l'escargot, il y a un dalil qui est clair, qui est authentique. Où le prophète a proscrit, a interdit de consommer la viande de. Alors, je vais te ramener le hadith. Il est interdit donc de le tuer, même de le tuer. Alors, s'il est interdit de le tuer, forcément, il va être interdit de le consommer.
D'accord.
Il y a aussi des animaux que le prophète a proscrit parce qu'ils sont par nature impurs, comme par exemple. Certains oiseaux comme le corbeau, le hada, c'est un animal, c'est une sorte de rapace. Mm-hmm. Le rat, le manger du rat, c'est haram aussi. Le chien et tout ça, tous ces animaux-là qui sont des fawasiq sont elles aussi proscrits. Et il a aussi interdit les insectes, hein, comme les fourmis, les abeilles. Etc. À part un seul qui est autorisé, c'est la sauterelle.
La sauterelle, parce que la sauterelle, oui.
Parce qu'on a un hadith qui justement vient explicitement autoriser la sauterelle. Il dit le prophète, "Uhillat lakum damani wa maytatan." Il vous a été autorisé deux catégories d'organes qui sont composés de sang, qui sont essentiellement composés de sang et qui sont malgré tout licites. C'est le foie et at-tihal, c'est-à-dire le pancréas. L'animal, on a le droit de manger de l'animal le foie et le pancréas, et on a le droit aussi de manger de la mer, la baleine, qui est un mammifère, malgré que ce soit un mammifère. Eh bien, tous les animaux de la mer, qu'ils soient mammifères ou des poissons, ou des crustacés, tout ce qui vient de la mer est halal. On a là-dessus un verset coranique qui vient justement autoriser sans aucune équivoque. Dans lequel il dit "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum." Il vous est autorisé de tout ce qui est la pêche de la mer, "wa ta'amuhu mata'an lakum." Et sa nourriture est une jouissance pour vous. "Wa lis-sayyara," c'est-à-dire et ainsi que d'utiliser des bateaux pour vous déplacer sur mer. Mm-hmm. Et il dit ensuite "Wa harrima 'alaykum saydul bahri ma dumtum hurama." Il vous est interdit de chasser les animaux de la terre tant que vous êtes en état de sacralisation. Et plus loin, il dira subhanahu wa ta'ala "Wa idha halaltum fastadu." Si vous êtes désacralisé, eh bien chassez les animaux de la terre avec une condition, c'est que l'animal qui est chassé sur terre doit faire l'objet doit être transpercé, voilà. C'est avec une arme qui va transpercer sa chair et qui va faire couler son sang, et non pas quelque chose qui va l'assommer ou l'étrangler, tel que les collets, les pièges et tout ça, où l'animal va mourir, va mourir de froid ou va mourir.
Quand on chasse avec des collets,
voilà. Ouais. Ça, eh bien, ça c'est pas halal, ça c'est pas autorisé. Par contre, une flèche, une lance, un fusil, une arme à feu, n'importe quoi qui va transpercer la chair de l'animal, à partir du moment où l'animal est tué par quelque chose qui va le transpercer, qui va rentrer dans sa chair, eh bien, elle est halal, il n'y a pas de difficulté. Aussi, il est autorisé quelque chose d'extraordinaire, et c'est même cité dans le Coran de manière explicite, le fait d'utiliser des chiens pour chasser. C'est-à-dire, on va envoyer des chiens comme chasse à cour,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Et l'animal qui est chassé va être tué, comme par exemple une biche ou bien un cerf. Vous savez, les cerfs dans la forêt. Où sont les cerfs? Tu la connais, la chanson? Tu connais pas?
Non, alors attendez.
Où sont les cerfs dans la forêt?
Oui.
Tu sais, quand tu étais petit, là, on jouait dans la récréation.
Où sont les cerfs dans la forêt?
Qu'est-ce
et après
qu'ils y font?
Qu'est-ce qu'ils y font? Ils font quoi?
Ils y travaillent.
Ah bon?
Vas-y, t'as essayé de les connaître.
Ah ouais, vas-y.
Quoi? Où sont les cerfs?
Dans la forêt.
Qu'est-ce qu'ils y font?
Ils y travaillent.
À quel métier?
Au charpentier.
Faut-il les tuer?
Et là, il doit crier oui ou non. Si c'est oui, à ce moment-là, ils doivent courir et éviter de se faire attraper par le chasseur.
Grand moment.
Voilà. Tu connais pas quand tu étais petit?
Non, mais quand j'étais petit, il n'y avait pas où sont les cerfs.
Il n'y avait pas où sont les
chefs. Mais non, on avait autre chose, mais c'était il y a très longtemps, Imam Abdelali.
Eh bien, écoute, oui, je sais bien que c'était il y a longtemps.
Donc, il y avait des serres de votre temps à vous.
Il y en avait, oui.
Il y en avait. Fait, il y avait la chanson.
Il y avait la chanson. Il y avait déjà la chanson. Les serres, il y avait tout ça. En tout cas, ces animaux-là, qui sont licites à la consommation, peuvent être chassés en utilisant des chiens. Les chiens vont mordre l'animal et vont le tuer. Et si par contre l'animal, au moment où vous vous approchez de lui, vous êtes à côté de lui, il est encore vivant, vous devez l'achever à coup de... vous devez l'égorger. Par contre, s'il meurt à cause de l'animal que vous avez utilisé, tel que le faucon ou bien le chien ou autre animal qui est utilisé pour chasser, eh bien, et s'il meurt, eh bien, il est licite tel qu'il est. Il est licite tel qu'il est. Vous avez le droit de le dépecer, de le faire cuire et de le manger.
D'accord. Et le faucon, ça se mange ou pas ?
Non. Alors, tous les animaux qui sont des animaux carnivores avec des cerfs ou des crocs. Donc, le prophète ne connaissant pas le mot carnivore, ben, il a utilisé di makhlabin wa nab. C'est-à-dire des animaux qui ont des griffes, des cerfs, qui donc attrapent d'autres animaux pour se nourrir de leur chair. Donc c'est de la chair nourrie de chair. Eh bien, cette chair-là, qui nourrit de chair, n'est pas halal. C'est-à-dire tous les canins, les animaux, les félins, les canins, tout ce qui est les loups, les renards, les ours, les chiens, toute catégorie de chiens, tout ça c'est haram. Ça n'est pas autorisé.
Parce qu'ils ont des cerfs.
Parce qu'ils ont des
griffes.
Des crocs. Ils ont des crocs, Philippe.
Ah bon ?
Ils ont des crocs. Après, ceux qui ont des cerfs, ce sont les oiseaux, tels que les rapaces ou bien les vautours. Tout ça aussi, c'est haram parce qu'ils ont, eux, des cerfs. Ils n'ont pas de crocs parce qu'ils ont pas, ils ont un bec. Ils ont pas une bouche comme les autres animaux terrestres. Donc, ces animaux du ciel qui chassent et qui se nourrissent d'autres animaux, et donc ont leur chair, qui est nourrie de chair, elle n'est pas halal.
Bon, voilà. C'est l'islam au présent ce matin. On parle de la nourriture en islam. Si vous connaissez la chanson Où sont les cerfs, vous viendrez nous la chanter tout à l'heure. On verra qui la chante le mieux. Et si vous avez des questions à poser aussi à l'imam Abdelali Mamoun, vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de la nourriture en islam ce matin, avec aujourd'hui il y a des listes qui circulent, des applications, Imam Abdelali, pour savoir s'il y a des graisses animales dans les produits. Alors cette question des graisses animales, comment est-ce qu'on doit l'appréhender, Imam Abdelali ? On a parlé beaucoup à une époque de gélatine, dans les bonbons, dans les gâteaux, dans les crèmes au chocolat. Est-ce qu'on peut considérer que ces produits sont interdits ? Où la quantité de graisse qu'il y a ou de gélatine qu'il y a dans ces produits fait que de toute façon, ça ne relève pas de l'interdiction.
Alors d'abord, voyons le produit en tant que tel. Il y a deux choses. Est-ce que ce produit est à l'origine impur ? Oui ou non ? La réponse est oui, puisqu'il s'agit souvent de gélatine de porc ou de gélatine d'animaux qui n'ont pas été égorgés. C'est-à-dire qui de la bovine, par exemple. Mais ce bovin dont on a utilisé sa graisse animale, eh bien, n'est pas un animal qui a été égorgé selon les rites musulmans. Donc sa chair, en principe, n'est pas licite. Donc si sa chair n'est pas licite, sa graisse aussi. Donc, elle vient souiller, elle vient, entacher, puisqu'il y a une quantité qui va être utilisée, notamment au niveau des moulages. Vous savez, les gâteaux, quand on va les mouler, on va graisser le moule pour éviter que la pâte colle.
Ça attache, oui.
Pour pas que ça colle au moule. Donc, c'est souvent dans cette manière-là qu'on va utiliser la graisse animale. Donc là, moi, je dis... à chacun d'entre nous de faire attention, an yatawarra mastata al-insan mastata, autant qu'il peut, il essaye de faire attention à ce qu'il consomme et d'éviter qu'il y ait des souillures, d'impuretés, etc. dans sa nourriture. Donc il doit faire attention. Mais si ça arrivait qu'il achète et qu'il le mange, faut pas dramatiser, inshallah khair. On astaghfirullah, on demande pardon à Allah azza wa jalla, on fait des istighfar. Personne n'est exempté de commettre des erreurs dans sa vie et des dérapages. Maintenant, je répète, essayons de faire attention. La gélatine, par contre, la gélatine, qu'est-ce que c'est ? On a vu un reportage sur ça, c'est de la peau de porc qui va être transformée dans des machines pour devenir une pâte qui va permettre de maintenir...
Oui, ça stabilise les choses.
C'est un stabilisateur, voilà, exactement. Donc ce produit-là, certains savants ont dit que quand il va être transformé chimiquement, ça ne sera plus de la chair de porc ou bien de la peau de porc, ça sera de la gélatine. La gélatine étant un produit chimiquement transformé, il devient licite. Ça, c'est l'avis de, notamment des savants d'Arabie, etc., qui autorisent l'utilisation de la gélatine de porc. Et aussi, ils ont un autre argument, c'est le hadith qui dit « Ida dubira al-jildu faqad tahur ». Quand la peau est tannée, effectivement, la peau, c'est de la peau qui est débarrassée de ses souillures, eh bien, elle devient pure à la consommation. Alors, est-ce qu'on inclut la peau de porc chez les malikites? Oui. Les autres écoles, non. Ils n'autorisent pas, même une peau de porc tannée n'est pas halal. Et encore moins de la porter sur soi. Par exemple, un blouson...
Ah, même pas le mettre.
Voilà. Bien, porter un blouson de cuir de porc tanné, chez les malikites, c'est autorisé. Dans les autres écoles, ça n'est pas autorisé. Donc, moi, je suis plutôt d'avis de ceux qui ne l'autorisent pas. Pour moi, le porc, il est impur par lui-même. Qu'il soit tanné ou pas, il est impur. Par contre, une vachette, une peau de cuir de vachette ou de bœuf, etc., qui a été tannée, eh bien, elle est licite à 100%. Il n'y a pas de difficulté à porter des blousons ou des vestes en cuir s'il s'agit d'animaux qui sont à la base halal, comme les animaux herbivores, tels que la chèvre, le mouton, le veau, la vachette, etc., etc. Tous ces animaux-là.
Vous avez un très joli manteau en poil de chèvre, d'ailleurs.
Moi? Oui. Ouais, des fois.
Il est très joli, votre manteau en poil de chèvre.
Ouais, je sais même pas si c'est
avec votre boléro et votre capuche en poil de chèvre.
C'est du synthétique.
Vous croyez pas que ce soit du vrai?
C'est du synthétique.
Il y a des questions qui reviennent.
Au prix que je l'ai acheté, non, je crois pas.
C'est pas de la vraie chèvre. Le fromage avec les brisures, vous savez qu'il y a
les présures, on dit les présures.
Les présures.
Alors, qu'est-ce que c'est que la présure? La présure, c'est ce qui est dans un petit flacon et qu'il y a quelques centilitres dedans, que l'on va verser dans une cuve de plus de 500 litres de lait pour cailler la. C'est de la caillette, on appelle ça. C'est de la caillette. Donc, ça permet de cailler le lait pour qu'il devienne du fromage. Eh bien, l'unanimité des savants dit que c'est halal que de consommer. Le fromage qu'il ait été caillé avec la présure d'animal en vrai, et que cet animal n'est pas halal, c'est pas grave, ou qu'il soit issu de présures synthétisées, c'est-à-dire celle qui est fabriquée aujourd'hui en laboratoire et qui constitue des sortes de petites bactéries que l'on va cultiver en laboratoire et qu'on va mettre dans des flacons et qui va être donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la présure artificielle ou de la présure industrielle. Cette présure-là, elle est halal, ainsi que la présure naturelle, celle qui est on va dire prise du foie de veau de l'animal. Quand on va tuer l'animal, on va récupérer sa présure et on va l'utiliser pour cailler le lait.
Donc, eh bien, pour les fromages, donc
le prophète a consommé du fromage des Masdéens, c'est-à-dire des idolâtres qui adoraient le soleil et le feu, qu'on appelle el-Majous. Le prophète a consommé de leur fromage. Min Joubni el-Majous, comme le dit le hadith authentique. Donc tous les fromages, moi je vous dis, rassurez-vous,
tous
c'est halal.
Voilà. Donc la difficulté,
ça sera sur les produits où il y aura marqué gélatine de porc ou graisse animale. Ça vaut mieux éviter. Quand vous êtes dans un magasin, vous avez les ingrédients derrière et alcool aussi. Alcool éthylique ou alcool, il faut éviter de consommer les produits qui ont été souillés par de l'alcool.
On l'a vu ça dans certaines pâtes toutes faites, notamment.
Voilà, pâtes feuilletées, pâtes de pizza, pâtes brisées, etc. Attention à éviter, je dis bien. Je répète, je dis à éviter, je ne dis pas que c'est haram. Parce qu'il y a beaucoup trop d'avis.
Il y a eu une polémique là-dessus. C'est très compliqué de s'y retrouver sur ces pâtes-là.
Exactement. Non, c'est la question, c'est l'alcool. Est-ce que cet alcool éthylique est. Puisque le hadith, il dit, plutôt le hadith, pas un hadith, c'est une qaïda, une règle juridique qui dit ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité est interdit même en petite quantité. Et donc là, effectivement, la quantité est infime, mais s'il y avait une grande quantité, est-ce que ça va m'enivrer? L'alcool éthylique peut-il m'enivrer? Certains disent oui, il y en a qui disent non, mais en tout cas, je ne sais pas trop, mais en tout cas, dès qu'à partir du moment où je vois le mot alcool, j'évite, j'achète pas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est haram? Je ne dis pas ça. Je dis que.
À éviter.
Voilà. Mimbab al-wara, c'est-à-dire sous l'égide d'une règle, ce qu'on appelle de cheminement spirituel, le croyant doit éviter de consommer tout ce qui peut être douteux. Il y a un doute sur son caractère licite, eh bien j'évite, j'ai pas besoin. Ra'atallah al-khair. Il y a d'autres choix que de consommer ce genre de choses pour me retrouver en préjudice. Bien entendu, moi ce qui m'agace, ça m'irrite un petit peu, c'est que D'un côté, vous avez des gens qui vont faire attention à pas manger du porc, mais l'argent avec lequel il a acheté la viande halal, elle est pas halal. Donc ça ne sert à rien. Il faut faire attention aussi comment acquérir l'argent que l'on a acquis, qu'il soit acquis de manière licite. Il ne faut pas que ça soit fondé sur une escroquerie, sur un vol ou sur la vente de produits illicites. Par exemple, moi, je vois des gens qui vendent de la drogue dans certains quartiers, par exemple, et ils mangent pas de jambon. Je dis, attends, mais c'est quoi ton délire là? Ah ouais, mais c'est haram le midi.
Vous allez les voir et vous leur dites
non,
ça.
Non, je vais pas leur voir. Ah, voilà, mais on a eu l'occasion.
J'aimerais bien voir ça, Imam Abdelali.
Mais il y a eu des discussions qui ont été faites et ils disent mais pourquoi? Ils disent non, mais c'est pas pareil. Comment ça? Tu vends de la mort, tu vis sur le dos de la vie des autres. C'est-à-dire tu es source de mort avec tes produits que tu vends qui sont haram à la base, et l'argent il est haram, et tout ce que tu trouves à faire c'est de te soucier de ne pas consommer de la chair de porc. C'est complètement absurde. Ou tu vas aller boire beaucoup d'alcool. Pour eux, l'alcool, je sais pas pourquoi ils ont pas de problème avec l'alcool. Par contre, tu leur donnes du jambon ou des saucisses ou des trucs choucroute de porc, etc. Ah là, tu les vois, ils sont réticents.
Enfin, c'est souvent l'inverse, hein. C'est plutôt qu'en fait ils boivent pas d'alcool mais qu'ils fument du shit.
Oui, non. Ouais.
Alors ça,
ils boivent de l'alcool, ils fument du shit, mais ils mangent pas de porc. Tu vas les voir.
Tu leur proposes un jambon beurre,
ils vont pas le manger.
Moi, je vous parle de gens qui pour eux, ils ne boivent pas parce que c'est haram, ouais. Mais qui fument du shit.
Ouais, ou ils vont te dire que c'est pas haram de fumer du shit. Il y a pas de preuve authentique qui va interdire la consommation. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, les effets du shit sont parfois même pires.
Techniquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit sa consommation?
Oui, il y a des versets génériques où on va pas à chaque fois pour chaque produit que l'homme va inventer un délit, une preuve du Coran ou de la Sunna, parce que l'homme est très créatif en matière de produits illicites, et on n'a pas besoin de ramener un dalil explicite, c'est-à-dire une expression explicite qui va interdire le produit en tant que tel. Il n'y a pas de verset coranique qui dit « Wa hurrimat alaykum al-hashish », ça n'existe pas ça. Mais on a un verset qui dit « Wa hurrimat alaykum al-khaba'ith », il vous est proscrit tout ce qui est impur et qui est nocif au corps humain. Est-ce que le shit, consensuellement, tous les savants sont-ils d'accord sur le fait que c'est un produit nocif? La réponse est oui. Donc, ça devient illicite. Tout ce qui est nocif et nuisible au corps humain est illicite. Voilà la règle générique. Tout ce qui est dangereux pour le corps humain est illicite. Est-ce qu'on est d'accord sur la cigarette, elle est dangereuse? Oui, c'est marqué sur le paquet. Fumer tue, c'est marqué. On voit des photos de bouche avec le cancer, de la mâchoire, on voit les poumons déglingués, on voit tout ça. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin de chercher midi 14 pour me dire ouais, est-ce que fumer c'est halal ou pas. Fumer c'est haram, il n'y a pas de chercher, il n'y a pas de chercher midi 14.
C'est-à-dire que fumer du shit,
du tabac
ou de la cigarette,
c'est nuisible.
Chiquer.
La chic, c'est dangereux. Tous les médecins vous diront.
C'est dangereux, mais est-ce que c'est.
Oui, c'est haram. Parce qu'il y a la nicotine que tu vas avoir une dépendance, tu vas avoir une addiction à ce produit-là, tu vas sentir mauvais de la bouche, tu vas avoir des produits dangereux qui vont s'assimiler dans ton corps et qui vont nuire à ton corps. Donc à partir du moment où ça ne nourrit pas ton corps, ça ne n'apporte que du mal à ton corps, forcément, cela devient forcément illicite de le consommer, de l'acheter et de consommer. Donc il est clair qu'il faut faire attention avec ce genre de choses.
Alors nous avons, mais est-ce qu'on a le temps d'ailleurs de prendre des appels? Non, on n'a pas le temps de prendre des appels tout de suite, on les prendra dans un instant. Si vous aussi vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, vous nous rejoignez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Heure FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et on parle de l'alimentation et de la nourriture en islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Vous pouvez poser vos questions en direct au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard, 01 53 48 3000. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Imam, alors, est-ce que la galette des rois, c'est halal ou pas?
Bah oui, bah pourquoi pas, bien sûr. La frangipane qui est fabriquée avec de la pâte d'amande, des pâtes feuilletées, oui, il n'y a pas de question.
Le vinaigre?
Alors le vinaigre, oui. Oui, le vinaigre est halal. Le prophète a trempé son pain dans une sauce de vinaigre et il a dit, ni'ma idamul khal. Il a dit, oh combien est bonne la sauce de vinaigre.
Mais alors,
et il mangeait le vinaigre.
Parce que vous avez dit
que le vinaigre, c'est du vin aigre.
Oui, ouais. Mais c'est bon.
C'est du vin qui a été aigré. Donc c'est du vin qui est à l'origine haram, qui est devenu halal تخلل ما تخلل من الخمر فقد حل.
Mais c'est écrit sur une bouteille, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait se
mettre. Vinaigre de vin, vinaigre d'alcool.
Voilà.
Alors, il y a deux choses. Soit on a ajouté de l'alcool dans le vinaigre, là c'est haram. Mais si c'est l'alcool lui-même qui est vinaigre, il est halal. C'est-à-dire que ça, si c'est de l'alcool lui-même qui s'est transformé en vinaigre, ouais. il n'y a pas d'alcool qui a été ajouté, il est halal. Donc il faut voir dans sa fabrication. Est-ce qu'il y a marqué dans sa composition vin? Il y a du vin qui a été ajouté ou de l'alcool qui a été ajouté
d'accord.
à ce vinaigre.
C'est ça qui permettra de.
Ça sera pas halal. Oui. Si par contre le vinaigre en lui-même, c'est du vin qui a été transformé, eh bien il est halal, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez même prendre du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin, du vinaigre d'alcool. Il y en a, ils marquent vinaigre halal, mais c'est n'importe quoi, puisque tous les vinaigres sont halal, jusqu'à qu'on prouve le contraire.
Bon, il n'y a pas de débat donc sur le sujet. Le foie gras. Alors ça aussi c'est une question qui.
Alors le foie gras, il est lié à l'élevage. C'est l'élevage. L'éleveur qui va faire souffrir l'animal pour obtenir du foie gras, lui commet un péché. Et le consommateur qui va acheter ce foie gras, est-ce qu'il est complice de cette maltraitance que subit l'animal?
Oui.
Eh ben, certains savants vont dire oui. Il est responsable puisqu'il sait que ce foie gras qui a été élevé d'un animal qui a été mal élevé, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'un gavage qui lui a fait souffrir, qui l'a fait souffrir le martyr en lui faisant subir une cirrhose de foie, puisqu'il s'agit bien d'une
cirrhose
de foie,
ouais,
pour transformer le foie intégralement en foie gras, il faut que l'animal subisse une cirrhose de foie et donc il y a un gavage, etc., où l'animal souffre le martyr. Écoutez, est-ce que le consommateur est excuse-moi, c'est mon fils qui vient me perturber.
Alors, non, parce qu'il se passe des choses dans ce studio. Là, il y a. Non, mais attends, c'est la vie, c'est le direct.
Ouais, c'est
pas très grave, hein, je peux vous
c'est
assurer.
Pas très grave.
Non, ça, c'est pas très grave. Donc,
alors,
sur cette histoire de foie gras, parce que.
Je répète, il y a l'éleveur qui commet un péché, ouais. Ça, c'est sûr. Il n'a pas le droit de faire subir cette manière d'élever un animal en le faisant souffrir le martyr, en lui faisant subir des gavages de grains qui ont converse avec des entonnoirs dans sa gorge, etc. Tout ça, c'est pas halal parce que ça fait souffrir l'animal. On ne doit pas faire souffrir un animal, même si c'est pour l'intérêt du consommateur.
Alors après, il y a des éleveurs qui vous disent qu'ils ont mis au point des techniques de gavage où l'animal ne souffre pas.
Et comment on peut le savoir?
Bah, il lui donne trop à manger, mais après on en revient au problème de la cirrhose. Bah, est-ce que cette cirrhose qui est déclenchée de façon artificielle, elle est illicite ou pas?
Une cirrhose, c'est une maladie, Philippe. On est bien d'accord que c'est une maladie. La cirrhose, c'est une maladie. Et cette cirrhose-là forcément provoque des douleurs dans le corps de la personne. Un être humain qui a une cirrhose de foie, il souffre. Il a des mal. Il a des douleurs au foie. Il doit se faire opérer. Parfois une ablation, etc. Donc, en principe, ce genre de pratique est tout simplement illicite. Je parle en tant qu'éleveur. Maintenant, le produit, l'animal, il a été égorgé. Il a été fait l'objet d'un abattage rituel. On a dit Bismillah, Allahu Akbar, et on l'a égorgé. Celui qui l'a égorgé, qui l'a donné à manger à quelqu'un, cette viande est halal. Ce foie est halal. Mais le problème, c'est que c'est tout est lié. Il y a toute une chaîne de fabrication qui est liée à une catégorie de clientèle qui vont acheter, des consommateurs qui vont acheter ce foie gras parce qu'ils vont trouver un goût particulier à ce foie gras. Eh bien, moi, je suis assez parti, non pas de dire que la viande est halal, mais que vous commettez un péché en vous rendant complice du supplice de l'animal. C'est-à-dire, c'est pas la viande qui est, ou le foie gras lui-même qui est haram, c'est le fait de faire subir, d'être complice du mauvais élevage de l'animal qui va souffrir le martyr pour que vous puissiez vous savourer un mets délicieux qu'on appelle le foie gras. Donc, il faut bien faire la distinction. Ce n'est pas le foie qui est haram, c'est le péché de soutenir, d'encourager l'éleveur à faire ce qu'il fait. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se passe, au niveau de la production, non pas au niveau de la consommation. Le producteur commet un péché, mais le consommateur qui par exemple, moi, je sais pas, on me rapporte de la nourriture, on me dit c'est halal, c'est du foie gras. Je sais pas comment il a été élevé, parce qu'il peut y avoir aussi des animaux bio, foie gras, qui ont été, je sais pas moi, qui n'ont pas été gavés, ou qui n'ont pas subi de souffrance. Eh bien, oui, pourquoi pas. À ce moment-là, manger de ce produit.
Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que du point de vue du consommateur, de celui qui mange,
ouais.
Il n'y a pas d'interdit.
Le produit qu'il mange, il n'est pas haram.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Mais c'est la complicité du consommateur qui aide le producteur à faire ce qu'il fait.
Oui, mais donc là, ce que vous dites, c'est valable pour les poulets et les poulets qui sont élevés en batterie.
Tout à fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'achète que des œufs en plein air. J'achète des poulets bio. Ou des poulets qui ont été...
ce qu'on appelle le poulet de batterie, et qu'on parle de maltraitance animale, là, on est dans la maltraitance animale. Et donc, à ce moment-là, si
donc,
vous écoutez,
je répète, ce n'est pas la chair qui est interdite. Ce n'est pas le fait de manger le poulet qui est interdit. C'est le fait d'être complice de l'élevage du producteur qui va, pour baisser les prix, faire souffrir les animaux. Et donc là-dessus, il y a un problème. Et le musulman doit faire attention en tant que consommateur à ne pas soutenir ce genre de pratiques industrielles où ce n'est pas simplement des produits inertes que l'on va manipuler, etc. Mais ce sont des créatures vivantes qui ressentent des douleurs, qui ont des nerfs et qui sentent et qui souffrent. Donc faire souffrir un animal pour que tu puisses toi manger, ce n'est pas autorisé.
Alors, on a Assina avec nous au 01 53 48 3000. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé, Assina.
Allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est quand on achète, par exemple, le foie dans la boîte, là où se trouve le foie.
Le foie gras, voilà. Le foie gras, vous parlez.
Non, le foie.
Ah, du foie. Le foie d'animal. Voilà, d'accord, oui.
Voilà. N'importe quel foie. Il y a du sang. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sang?
Rien, vous mangez, c'est autorisé. Tout le sang qui est resté accroché à la chair de l'animal est halal. C'est le seul dam al-masfouh, c'est-à-dire le sang qui coule de l'animal au moment où il est égorgé. Il y a du sang qui coule. Ce sang-là qui coule n'est pas halal. Il est impur. Al-dam al-masfouh. En arabe, on dit al-dam al-masfouh. Had al-dam al-masfouh haram. Amma al-dam al-ladhi baqaya al-dam, les résidus de sang qui restent dans la chair, il est halal.
D'accord.
Chez les juifs, il n'est pas halal. Il faut encore le cachériser en posant cette chair-là sur du sel pour que le sel aspire le résidu de sang, puisque même le moindre gramme de sang qui reste dans la chair chez les juifs n'est pas halal. Mais nous, les musulmans, nous avons une certaine tolérance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous autorise à consommer cette chair où il y a des résidus de sang qui sont restés à l'intérieur de la chair. Cette chair-là est halal, même s'il reste quelques résidus de sang à l'intérieur, même dans le foie. Que ce soit du foie de volaille, du foie de bœuf, le foie de mouton, etc. De toute façon, le foie en lui-même, il est halal, parce que c'est du sang à l'origine, le foie. « Wahillat lakum damani wa maytatan amma daman al-kabidu wa tihal » Le kabid ou le foie, c'est halal. Ouais.
Alors, deuxième question, Assina.
Merci. Deuxième question, concernant le mot qui est écrit dans le Coran, qui parle de Aya, Ayat, et voilà. Nous les humains, enfin nous les musulmans, depuis le X temps, on a transformé ce mot-là en mu'jiza, miracle. Mm-hmm. Et là, on s'éloigne de textes et on se perd et on se perd. Comme si je l'ai compris moi et plusieurs personnes que je connais, j'ai compris. On n'est plus dans le temps où il y a des ayats. Et voilà, donc la personne, elle désespère, elle dit ah, moi, je ne suis pas comme tel prophète, hein, parce que lui, il a eu cette ayat, ou voilà, il a eu des enfants alors qu'il était, il était très âgé. On n'est plus dans ce temps-là.
Alors vous, ce que vous parlez, c'est des choses qu'on peut appeler surnaturelles, c'est-à-dire qui dépassent le raisonnement humain. C'est ça ce que vous appelez. Comme par exemple, vous avez dit, le fait qu'une femme âgée d'un certain âge, 80 ans ou plus, qui tombe enceinte et qui donne naissance à un bébé alors qu'elle a plus de 80 ans, c'est effectivement surnaturel. C'est quelque chose qui relève du surnaturel. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé pour justement la femme de Zacharie, etc. Donc oui, alors madame, il faut distinguer dans cette expression-là, il y a deux mots. Il y a le mot ayat qui veut dire signe de Dieu. Il y a le mot ayat qui veut dire les versets, qui est les paroles incréées de Dieu. Et donc, toutes ces catégories-là de signes, qu'ils soient créés, c'est-à-dire les choses que l'on voit autour de nous, qui relèvent du surnaturel, ou voire même du naturel. Par exemple, le mariage, le prophète, le Coran dit que c'était inna fi dhalika la ayat li qaumin yatafakkarun. En lui-même, il l'appelle comme étant une ayat inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil al-albab. Le fait, la rotation de la nuit, du jour et du soleil, etc. Le Coran appelle ça ayat. Donc ayat, ça veut dire des signes qui vous permettent de méditer la grandeur du Créateur en méditant la création. Je répète, on médite la grandeur du Créateur en méditant la création. Ce sont des ayats, des signes qui nous permettent de prouver l'existence de Dieu et de la grandeur et de la puissance du Créateur qu'il y a derrière ces créatures que Dieu a créées. Mais aussi les versets qui sont des paroles incréées, qui sont des signes, l'ayat al-Qur'aniya, comme on l'appelle. Voilà. Écoutez-moi, je vous invite, c'est de m'appeler par téléphone, je pourrais mieux vous expliquer.
Oui, ça prend un peu de temps et on arrive à la fin de cette émission. Redonnez votre numéro de téléphone, Imam Abdelali.
Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. Je rappelle qu'une grande Umrah, Inch'Allah, s'organise, puisque j'y ai été pendant les vacances de fin d'année. J'ai vu que c'était tout à fait possible de faire une belle Umrah pour ceux qui le souhaitaient. Je l'organise, Inch'Allah ta'ala, du 22 ou 23 février jusqu'au 5 mars. 23 février au 5 mars, j'organise une grosse Umrah pour ceux qui veulent partir avec moi. Je les invite donc à m'appeler et à se
Oui. Un mois avant le début du mois de Ramadan.
Voilà, puisqu'après il n'y en aura pas d'autres. Hein. Je ne pourrai pas en faire d'autres, puisqu'après on va préparer les émissions du Ramadan et on sera avec vous, Inch'Allah, tous les jours du Ramadan, comme l'année dernière, Inch'Allah, avec Philippe Robichon, avec toute l'équipe de BRFM.
Moi je ne serai pas là.
Je ne sais pas.
En tout cas, il y aura
du beau monde, ça
moi,
c'est sûr.
Moi je vous ai assez vu.
Bon, si tu ne fais pas partie du beau monde, tu n'es pas là.
Ben voilà.
Si tu fais partie du beau monde, tu seras là.
Voilà, c'est ça,
simple.
Voilà.
C'est à toi de choisir d'être ou non du beau monde. Donc voilà, Philippe. J'organise aussi des Umrah par délégation. Il y a des gens ou du Hajj. Ah oui, il y a aussi des organisations du Hajj. Vous pouvez vous inscrire pour le Hajj, c'est possible. Je commence à préparer les dossiers de l'organisation du voyage du Hajj et le Hajj par délégation. Vous pouvez aussi, pour une personne décédée, m'appeler pour organiser un Hajj par délégation, c'est-à-dire d'envoyer quelqu'un d'autre à votre place pour accomplir le Hajj de la personne décédée ou malade.